Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Ashura, double 7, Yarawal. Oprena.
Bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission Au bout du foot sur Mon Paris FM. Voilà, hein, on commence tout de suite avec la victoire du Mali face au Burkina Faso 2-1. Pour ce soir, les invités spéciaux, en tout cas du moins les chroniqueurs habituels sont là. Alfred, comment vas-tu Alfred ?
Je vais très bien.
Merci. Et toi Arthur, comment ça va ?
Tout va bien.
Ça va Arthur, pas trop de pression en tout cas. Et toi Salé ? Ça fait un petit moment, Salson. Comment ça va ?
Ça va et toi ?
Ça va, merci. Et toi, Cheikh Kenza ?
Ouais, je vais bien.
On te sent un peu...
Je vais bien.
Ça va, tu vas bien ?
Ouais, je vais
très
bien.
T'as la forme ? Ok, bah c'est super alors. On va commencer tout de suite avec... on a notre envoyé spécial, Abou, qui est en Côte d'Ivoire et qui est en ligne aussi. Comment ça va, Abou ?
Salut, ça va et toi, Eladj ?
Ça va, super, ouais, je t'entends bien.
Ah là là là.
Comment
là
ça
là
se passe
là
là-bas
là.
Ah, les prédictions étaient bonnes. Hein.
Ah bah oui, on en a parlé juste avant le match entre le match entre l'Afrique du Sud et le Maroc.
Oui oui, bah ça fait déjà un moment, on en avait déjà parlé même sur le plateau. Hein.
Et on se rend compte que ouais, on est vraiment sur la canne des surprises, la canne de tous les possibles.
Oui.
Et le troisième lion qui est resté dans la compétition est sorti, les lions indomptables sont sortis un peu plus tôt, ont suivi les lions de la Teranga, maintenant les lions de l'Atlas aussi. Donc c'est juste incroyable en fait ce qui se passe.
Ah oui, les lions ne sont pas la très bienvenue en Côte d'Ivoire hein, cette année hein, pour cette 34e édition. En tout cas, visiblement pas. On a vu l'Afrique du Sud qui a créé la surprise, les Bafana Bafana, avec 2-0. On rappelle, avec un pénalty manqué de Achraf Hakimi, on aura le moment de revenir là-dessus. Pour vos premières impressions pour le match du Mali, bon, c'était un match assez maîtrisé, hein, je pense. Hein. Bon, Alfred, tu vas nous dire, toi qui as vraiment analysé tout le match jusqu'à la dernière minute. Dis-nous, Alfred.
Moi, bah, de toute façon, pendant tous les 90 minutes, on a vu la suprématie du Mali. Donc le Mali a montré de quoi il était capable. Le Mali a su organiser son jeu au niveau de l'ensemble. Il y a eu tout ce qui était positif au niveau du terrain. La défense, Diakaté a su faire bonne impression, il était maître de sa défense. Après, au niveau de l'attaque, comme je vous dis, la combinaison au niveau de tout ce qui s'est passé, pour moi, j'ai trouvé que le Mali méritait cette victoire. Donc voilà, après, le Burkina Faso a fait ce qu'il pouvait, hein, mais bon, il faut dire que parfois, il réagit, c'est normal que vous ne pouvez pas rester tout le temps avec les bras baissés, mais pour moi, comme je vous dis, le Mali était au-dessus.
D'accord, merci Alfred. Et toi Abou, dis-moi, comment ça s'est passé, l'ambiance même, comment c'était ? Raconte-nous tout.
Bah franchement, moi, j'ai pas pu aller à Korogo pour ce match-là, je suis resté sur Abidjan, vu que je suis rentré de Yamoussoukro ce matin. Oui. Mais ce qui est incroyable, en fait, c'est que même ici, à Abidjan, tu sens une forte communauté malienne, parce que sur chaque but, ça faisait que crier autour de moi. J'avais même l'impression que c'est le Mali, enfin qu'on était à Bamako et pas à Abidjan. Et ça, c'est juste formidable quand on parle de canne de l'hospitalité. Ça fait plaisir de voir ça, surtout vu les polémiques qu'on a pu voir ces derniers jours autour du peuple malien ivoirien. Ben, on se rend compte finalement que tout ça, c'était sur les réseaux sociaux. Et sur le match en lui-même, moi, j'ai trouvé une équipe du Mali vraiment juste incroyable. Enfin, incroyable, je suis peut-être dans l'euphémisme, mais c'est vraiment une équipe qui joue très, très, très bien au football. C'est une équipe qui est juste techniquement, qui est juste sur ses passes, juste dans tout ce qu'elle fait. Le seul problème du Mali et qui va peut-être leur causer du tort pour le reste de la compétition, c'est qu'il n'y a pas de finisseur dans cette équipe. On a vu El Bilal Touré qui n'a pas pu venir. On a Ibrahim Akone qui est blessé également. Alassane Pléa qui lui a préféré faire le choix de ne pas jouer cette canne pour ne pas heurter les uns et les autres, et on peut le comprendre. Mais sinon, dans le jeu, c'est une équipe très alléchante. C'est une équipe qui joue très bien. En plus, pour le coup, à Korogo, la pelouse, elle est vraiment très très belle. Donc ça favorise le jeu du Mali, et moi j'ai trouvé ça incroyable. Une équipe qui, contrairement à hier ce qu'on a pu voir avec le Sénégal, qui quand elle a marqué un but, elle ne s'est pas contentée de défendre, elle a essayé d'aller mettre le deuxième, et ils ont fini par être récompensés en ce début de seconde période, et c'est d'ailleurs ce deuxième but qui leur permet de se qualifier, vu que le Burkina ont réduit le score à l'heure de jeu. Donc une très très belle équipe du Mali, une très très belle ambiance ici à Abidjan, et l'ambiance, je pense qu'elle sera encore plus belle à Bouaké ce samedi pour les quarts de finale.
On l'espère en tout cas, on imagine l'ambiance de où on est. Hein. Et je voulais revenir sur un petit point, Abou, parce que tu disais que le Mali n'ont pas de finisseur. Oui, c'est vrai qu'ils peinent en termes d'occasion, ils ont beaucoup d'occasions, ils peinent à marquer. Voilà, parce qu'on voit dans les statistiques, ils peuvent terminer le match avec 6-7 tirs cadrés, il n'y a que 1-2-0, tu vois, c'est un assez faible bilan. Mais on a quand même Sinayoko qui est très adroit. Hein. Sinayoko qui est à 3 buts, je le rappelle, hein, il est à 3 buts dans cette 34e édition de Cannes, et pour lui, hein, faut savoir, c'est sa première Cannes aussi. Du coup, ça, voilà, comme on dit, hein, le malheur des uns font le bonheur des autres, et là, ça profite pas mal à Sinayoko, qui était inconnu au bataillon, et que là, on voit qui aborde ce maillot avec beaucoup de fierté et qui est très très efficace en tout cas.
Ouais, très belle surprise, hein, Sinayoko. On aurait pu penser que Sekou Keïta ferait une meilleure Cannes que lui, ou que Sekou Keïta serait devant lui dans la hiérarchie des attaquants, mais on se rend compte que le joueur de la JOCR fait un très bon début de CAN, comme tu le disais, LH, 3 buts déjà pour lui. Pour rappel, hein, le meilleur buteur de la CAN, il a 5 buts, c'est tout. Donc pourquoi pas même pour Sinayoko d'aller chercher le meilleur buteur de cette CAN, il reste encore du boulot.
Avec un joli doublé ce week-end, on lui souhaite.
Mais c'est un franchement, il fait une très très belle CAN, et tu fais bien de le soulever, LH.
Merci à vous. Et dis-nous, Salson, dis-nous toi, qu'est-ce que tu as pensé du match?
Ouais, franchement, très beau match du Mali. Et franchement, première période, ils ont bien mobilisé le ballon. Franchement, il y avait des belles phases de jeu. Et pour revenir à Sinayoko, il a un gros volume de jeu. Il se crée beaucoup d'occasions. Et le Mali, sur les dernières attaques qu'ils avaient, on avait du mal un peu à se procurer des occasions. Et Sinayoko, il fait très bien le travail. Malheureusement, des fois, il manque de réalisme, mais bon, il a 3 buts, et je pense que c'est à cause de ses courses et de ses efforts qu'il a un manque de réalisme devant le but. Mais sinon, le Mali, c'est vraiment un très beau match, et franchement, il n'y a rien à dire, soit dans le jeu, dans l'intensité, et même collectivement, avec ou sans ballon, on voit qu'il y a du mouvement et qu'il y a de l'envie. Et franchement, c'est intéressant.
Excuse-moi, mais dis-moi, Salé, en fait, il y a des moments aussi où, voilà, on voit bien, là, aujourd'hui, le Mali, on prend un but sur penalty quand même. Même si, je le rappelle, hein, c'est l'une des meilleures défenses des équipes en compétition actuellement, en termes de depuis les qualifications de la Coupe du Monde, etc. Et là, jusqu'à maintenant, ils ont encaissé à peu près 4 buts sur à peu près 16 matchs, ce qui est vraiment, vraiment honorable pour eux. Mais il y a des petits détails qui font que, voilà, à chaque fois, c'est un petit carton rouge. On se souvient, contre la Tunisie, un petit carton rouge, c'était même Kiki Kouyaté qui aujourd'hui a mis la main dans la surface. C'est comment on t'explique cela? Pour toi, c'est de la maladresse?
Pour moi, c'est juste de la maladresse. C'est des faits de jeu, manque de concentration peut-être. Il y a toujours ce petit gâchis qui gâche un peu la bonne performance de la défense, parce que ça reste solide quand même. Ça prend très peu de buts. Même sur les éliminatoires, c'était l'une des meilleures défenses. Parce
la
que
meilleure défense.
C'était 2 buts encaissés en je ne sais combien de matchs. Et même sur la CAN, on voit que c'est solide. Ils prennent un but contre la Tunisie sur une phase de jeu, une très belle phase de jeu de la Tunisie, et la seule même du match. C'est la seule du match. Et là, même aujourd'hui, c'est sur le but de la Tunisie, c'est Fala et Sako qui est en retard sur son joueur. Donc c'est encore un manque de concentration. Aujourd'hui, c'est Kiki qui fait une faute de main dans la surface. Je pense que c'est une maladresse plutôt. Et c'est toujours ce petit détail qui gâche un peu la bonne performance de l'équipe. Mais ça reste tout de même très costaud, et je pense qu'avec le temps, ils vont pouvoir corriger ces tirs.
Merci Salé. Et toi, Cheikh Kenza, dis-nous, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match du Mali?
Ouais, le Mali, vraiment, ils ont été vraiment impressionnants. Et vu vraiment la physionomie du match, on a vu un grand Mali, vraiment. Je pense que ça peut donner de l'espoir. On voit vraiment que Sekou Chiel, comme tu as dit, vraiment, il fait un travail et tout. Il a bien maîtrisé le groupe, tout ça. On sent que le groupe vit bien, il n'y a pas de pression et tout, il ne se la rajoute pas. Hormis vraiment le dernier match qui m'avait un peu déçu, mais là, ce que je vois, je sens que vraiment, ils ont travaillé. Je sens que le discours du coach passe bien. On voit des joueurs vraiment qui se libèrent et tout. Vous parlez de Sinayoko, vraiment, qui fait une très belle canne, lui. Ça, c'est très, très important. Je pense que là aussi, avec comme Abak l'avait dit plus tôt, L'apport de El Bilal Touré, je pense que le Mali sera encore une équipe plus complète qui pourrait au moins prétendre des titres. Mais là, je vois vraiment un Mali qui est très bien. Après aussi, chaque match a sa réalité. Là, le Mali, vraiment, ils vont en quart de finale. C'est génial. Je pense qu'ils sont déjà félicités pour le parcours. Comme tu as dit, ils encaissent très peu. Mais par moment, dans ce genre de compétition, ça peut arriver. Il peut arriver qu'il y ait un fait de jeu et tout ça. Et comme tu as parlé de Kiki Kouyaté, c'est pas la première fois. Et même l'élimination de la Coupe du Monde, le Mali se fait éliminer sur un fait de jeu. C'est-à-dire une passe et tout, le gars il rate le contrôle, c'est-à-dire qu'il n'est pas concentré à un moment donné, c'est des choses qui arrivent. Je pense que le coach il va revoir ça, il va essayer de revoir avec le psychologue ou soit le préparateur physique pour que vraiment ils aient plus de concentration. Parce qu'une compétition, un match ça se joue maintenant sur 100 minutes, 90 minutes et 10 minutes d'arrière de jeu, voire même plus. Ouais. Donc du coup, si tu es concentré de la première à la 89e minute, c'est qu'il y a un problème. Donc le temps qui reste, à tout moment l'adversaire peut te faire mal. En tout cas, je suis vraiment impressionné par cette équipe. Et pourquoi pas, ils font partie des prétendants maintenant parce que là, toutes les cartes sont possibles. Donc, ils ont les chances aussi entre les mains et on espère vraiment voir ce que ça va donner.
Merci, Cheikh Kenza. Oui, c'est vrai que voilà, les cartes sont redistribuées. Hein, on a vu, hein, y a pas vraiment de favoris. En tout cas, il y a des favoris, mais les grands favoris ont perdu leur titre. On pense encore au Sénégal qui sont teneurs du titre et qui ont perdu hier contre la Côte d'Ivoire qui s'était qualifiée au bout du bout, hein, qui était les trois. Qui ont fait partie des meilleurs troisièmes, mais qui étaient la quatrième meilleure troisième. Vraiment, voilà, c'est ce qui était dommage. Et ça s'est joué sur des faits de jeu. On a vu hein, le Sénégal qui menait. À la fin, voilà, on a vu tous ces faits de jeu-là. On va rebondir sur le Maroc et l'Afrique du Sud, où il s'est passé pas mal de choses aussi. Abou, je voudrais savoir ton impression sur ce match-là, qui s'est soldé par un 2-0 pour les Bafana Bafana.
Déjà, moi, je vais commencer par un coup de gueule. Et là, si tu me le permets, sur ce bien match-là, sûr. Je ne sais pas si sur le plateau, on partagera mon avis, mais j'ai hâte d'entendre les uns et les autres. Moi, c'est sur les tireurs de pénalty et ce syndrome du héros qu'ont les joueurs de foot. Alors, je sais, certains me diront qu'Achraf Hakimi, il tire très bien les pénaltys. Mais je pense qu'au moment où Achraf Hakimi, il va pour tirer le pénalty pour le Maroc, il y a des joueurs qui tirent mieux les pénaltys dans cette équipe que lui. C'est pareil hier, le match du Sénégal, quand on voit Moussa Niakate tirer un pénalty, alors qu'avant lui, il y a Bamba Dieng qui peut tirer, il y a Sadio Mané qui peut tirer, mais qui décide d'être cinquième tireur. Pareil, avec ce même syndrome du héros, le but qui va offrir la qualification, moi, c'est quelque chose qui commence à m'agacer sérieusement dans le football. Et c'est quelque chose qui, on le voit aujourd'hui, nuit aux équipes. Et voilà, quand on voit Achraf Hakimi qui s'écroule derrière, oui, tu t'écroules, mais quand tu vas pour tirer un pénalty comme ça, c'est que tu es sûr de toi. Et franchement, quand Achraf Hakimi va pour tirer le pénalty, j'en suis sûr qu'on est plein à se dire il va le rater, il va la mettre en haut.
Bien sûr.
C'est même pas que le gardien va l'arrêter. Beaucoup, ouais. Je suis sûr qu'on est plein à se dire il va pas la mettre dedans. Soit il va la mettre sur le côté, soit en haut. Et le résultat, il est là. Et c'est dommageable pour le Maroc qui se retrouve éliminé derrière. Voilà, c'est le coup de gueule que je voulais faire sur ce point-là. Après, sur le match en lui-même, c'est le Maroc qui, je pense, ne s'attendait pas à une telle opposition en fait, de l'Afrique du Sud. Le Maroc qui était parti dans l'esprit, je pense, de dominer ce match-là. Et qui finalement se retrouve face à une équipe qu'elle domine, oui, mais qui aussi a le ballon. Enfin, l'Afrique du Sud ne lâche pas complètement le ballon au Maroc, ce qui fait que tu es un peu dans un truc entre deux où tu ne sais pas si tu dois garder le ballon ou si tu dois jouer en contre-attaque. Tu te retrouves avec des joueurs qui ont faim, qui ont la dalle. Et c'est là où tu vois que c'est différent la Coupe d'Afrique des Nations de la Coupe du Monde. Et qu'en Coupe du Monde, il y a des tactiques qui passent et qui marchent, qui en Coupe d'Afrique des Nations ne marchent pas. Et c'est ça qui, je pense, aujourd'hui a fait très, très mal aux Marocains. Et l'arbitrage, pour moi, franchement, il a été plutôt pas mal. Je sais qu'il y a sûrement des gens, même autour de la table, qui auront des remarques par rapport à l'arbitrage, mais moi, je trouvais qu'il a été très bon. Après, la seule chose un peu dommageable dans ce match-là, c'est le stade qui était un peu vide à San Pedro. Mais voilà, ça, c'est les aléas du football. Malheureusement, comme je vous disais, San Pedro et Corogo, c'est des villes un peu loin d'Abidjan, quand en plus, ce n'est pas le pays hôte qui joue. C'est difficile de remplir ces stades-là.
Mais quand c'est pas des affiches, en tout cas, on imagine que ça ne doit pas être facile de les remplir, ces stades-là. Mais en tout cas, voilà, dans l'ensemble, je pense que tu as résumé une bonne partie, en tout cas. Arthur, je t'en prie, vas-y, donne-nous ton ressenti par rapport à ce match-là.
D'accord, donc je vais essayer de contredire Abou par rapport au syndrome du héros. Il n'y a pas de syndrome de héros, en fait. Il y a des joueurs qui, au-delà de la qualité technique, Hakimi, c'est un tireur attitré depuis plusieurs années au Maroc pour tirer les coups de pied arrêtés, que ce soit les corners, parfois les coups francs ou les pénaltys, c'est lui. Que ce soit même aujourd'hui au PSG sans Neymar ou Messi, c'est lui qui tire les coups francs. Donc c'est on va pas dire l'élu, mais c'est le joueur envers tout le collectif ou le staff se tourne pour prendre ses responsabilités. Et on n'a pas vu un joueur marocain aller autour de Hakimi pour lui disputer le pénalty. Donc tout le monde avait confiance en lui. Après, bien sûr, dans les grands matchs, les joueurs ils peuvent rater et ça fait partie de l'histoire de ce sport. Mais qui aurait pu penser vraiment qu'il aurait raté en fait ? C'était juste des pronostics, mais
oui, moi, non,
quand
j'ai vu, quand voilà, je, c'était
quand
des
je le vois prendre le ballon, je dis c'est dedans.
Ah, moi franchement, je te dis honnêtement, je regardais le match dès que je l'ai vu prendre le penalty.
Oui, mais il en a raté combien ? Mais après,
pas beaucoup. Moi, mais tu sais, Arthur, moi j'ai repensé au dernier penalty que Hakimi a tiré avec la sélection marocaine. C'était face au Portugal, si je ne me trompe pas. C'était face au Portugal et il a tiré, il a tenté une panenka et la balle ne s'est pas levée. La balle est restée pratiquement au ras du sol et elle est rentrée vraiment parce que le gardien avait plongé bien avant.
D'accord.
Sinon, ça, c'est une frappe ou même.
Mais c'était dedans. C'était quand même dedans.
Bien sûr, mais je ne l'ai pas vu. Voilà, un expert. Moi, quand tu me parles d'expert en termes de tir au but, je pense tout de suite à Cristiano Ronaldo.
Oui,
tout de suite.
Qui est l'expert du côté du Maroc ? Là, c'est le Maroc qui joue.
Ah non,
qui
bien sûr.
Qui devrait tirer à sa place ?
Qui devrait tirer ? Non, bon, il n'y a personne, je pense que. On aurait pu, on peut
y a
en
des
citer,
joueurs,
Abou,
y a des
Abou,
de
Abou peut nous dire, peut-être Harit ou Naï, ou même El Nesri, parce qu'El Nesri aussi il tire les pénalties avec le FC Séville. Bon, maintenant, plus maintenant, parce qu'il y a Sergio Ramos, mais il me semble qu'il y avait plusieurs tireurs. Après, je pense qu'on aurait dit la même chose si ça serait El Nesri qui aurait loupé ou quoi. Oui, allô. Allô.
Ouais, tu m'entends ?
Oui, je t'entends. Comment ça va, Younes, supporter marocain de la région parisienne ? Comment vas-tu ?
Ça va et vous ?
Ça va, super.
Nickel.
Dis-nous ton ressenti sur le match du Maroc. Bah, je pense que tu dois être déçu quand même, déçu de la performance peut-être.
Bah, déçu, c'est normal. Hein. On finit premier du groupe. On se voit aller loin dans cette compétition. Malheureusement, les Bafana, on les connaît. Ils sont un petit peu coriaces. On les a vus déjà chez eux à la Coupe du Monde, là contre l'équipe de France. On voyait que c'était une équipe qui lâchait rien. Ah, ils ont toujours cette âme de combattant. Malheureusement, la première mi-temps, on voyait que c'était un match tactique. Les deux équipes, elles se regardaient. Elles étaient en train de se jauger.
Restez bien en place, ouais.
On avait quelques actions, malheureusement on aurait dû les concrétiser direct pour au moins tuer le match et avoir un ascendant psychologique, mais ça a peiné. Après ça a joué, sachant que la plupart des joueurs déjà ils étaient fatigués en match de poule, ça se voyait que physiquement ils allaient pas tenir, c'était compliqué déjà vu le climat, les joueurs ils sont pas habitués, il y a un taux d'humidité super important là-bas, là, dans cette zone géographique, là, en Côte d'Ivoire, les joueurs ils sont pas habitués. Ça se voyait en 5 minutes, les maillots ils étaient déjà mouillés. Ah et oui. C'est des joueurs qui n'ont pas forcément l'habitude. Et ils jouent pour la plupart tous en Europe. Le climat, c'est pas le même. Après, on va pas trouver d'excuses, hein, mais c'est compliqué de tenir un match.
Et je vais te poser une question, c'est par rapport au troisième match, puisque il avait laissé certains titulaires au repos, comme El Nesri, mais il a forcé sur. Ziyech, Ounahi, Boufal et deux des trois que j'ai cités.
Ouais, il a fait tourner un petit peu l'effectif pour donner du temps de jeu. Il a laissé le capitaine au repos, sachant que ouais, il avait besoin un petit peu de souffler. Malheureusement, on va dire qu'il y a certains remplaçants qui se sont pas forcément illustrés. Malheureusement, ça a peiné sur les rentrées.
Un bon choix.
Il y avait Zelzouli qui a essayé. Mais bon.
Je te disais, est-ce que c'était un bon choix de faire jouer Boufal et Ziyech, sachant qu'aujourd'hui ils n'ont pas pu jouer vu qu'ils étaient blessés.
Après, c'est un choix du coach. Hein. Il connaît ses joueurs, il les côtoie, il discute à fond avec eux. Donc, il connaît un petit peu leur forme. C'est pas des joueurs qui vont se cacher derrière une blessure. Boufal, il s'est blessé à l'entraînement. Ziyech, il s'est blessé sur le terrain, foulure de la cheville. Après, c'est des choses qui arrivent. Hein. Et après, se dire que si on n'aurait pas fait jouer tel ou tel joueur, le troisième match, ça aurait changé la donne.
Oui, peut-être pas que ça aurait changé la donne, mais en fait, dans le sens, c'est que le Maroc était déjà assuré d'être qualifié. ils étaient déjà assurés d'être qualifiés et un match nul aurait suffi largement à se qualifier premier du groupe.
Premier, exactement.
Du coup,
mais tu as reposé certains titulaires. Nesri, tu l'as fait reposer et d'autres. Donc, en fait, pourquoi.
Oui, après c'est une question, je pense qu'on pourra pas avoir si on la pose pas directement à Regragui. Mais voilà, après je pense qu'après après la demi-finale de cette Coupe du Monde, les Marocains avaient beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir aussi pour cette 34e édition de la CAN. Et je pense que ça doit être très désolant de voir comment ça se termine, quoi.
Ouais, bah bien sûr, c'est frustrant, sachant qu'on finit dans le dernier carré de la Coupe du Monde, tout le monde nous voyait comme favori, meilleure équipe d'Afrique, etc. Ça pèse après sur les épaules, on va dire, peut-être de certains joueurs, mais...
On repense aussi à Regragui, hein, qui avait dit que le Maroc était un favori et qui devait finir dans les quatre derniers.
Bien sûr. Bah, c'est logique. Quand vous finissez dans le dernier carré à la Coupe du Monde, quatrième équipe mondiale dans ce type de compétition, vous ne pouvez pas arriver et dire qu'on va jouer. On va jouer que les huitièmes ou les quarts, c'est l'objectif, non?
Non, pas forcément.
Mais c'est d'aller loin.
Oui, oui, bien sûr. Mais après, on a vu plusieurs coachs à qui on posait la question et ils disaient on prend match par match. On va jouer les matchs à fond et on joue match par match et on espère aller le plus loin possible. Et voilà, on se doit d'aller le plus loin possible aussi, tu vois. Voilà, c'était
ouais,
ça.
Ouais, ouais. Mais Greg, bah après, c'est de la communication. Chaque entraîneur choisit un petit peu sa façon de dire les choses.
C'est ça. Bon, après, il était revenu sur ses dires, hein, quand même. Hein. Il est revenu sur ses dires et il s'est dit la CAN est très compliquée et que ça n'est pas.
Après la CAN, on peut pas comparer. C'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir avec la Coupe du Monde ou la Coupe d'Europe. Les équipes, c'est pas les mêmes. On le voit, hein, c'est ultra physique. Depuis longtemps, on connaît la CAN. Hein. Ouais. Que ce soit les terrains ou le climat. Après, on va pas se cacher derrière tous ces aspects-là. Hein.
Oui.
C'est des choses qu'il faut prendre en compte. Oui. C'est des choses qu'il faut prendre en compte. Les stades, ils sont pas climatisés, hein, on n'est pas au Qatar. Hein.
Oui, bien évidemment. Après c'est pas partout aussi où les stades sont climatisés. Hein. Le Qatar ont rénové vraiment.
Bien sûr, bien sûr. Malgré ça, la compétition, elle se passe au mieux. Les terrains, ils sont. On a vu des terrains pires que ça lors des précédentes CAN. Franchement, chapeau à la Côte d'Ivoire parce qu'ils ils ont fait une belle organisation. Et,
Merci, Younes.
Malheureusement, je l'ai en travers de la gorge. Après, le pénalty d'Hakimi, on va pas lui en vouloir. Un pénalty, ça reste un pénalty. Hein. J'ai entendu tout à l'heure, il a tiré un pénalty à la Coupe du Monde. Donc, après, il a pris ses responsabilités. Hein. C'est un des leaders de l'équipe. Il a tiré, malheureusement, on le voit hein, sur son ouverture de pied. La balle, elle part direct en l'air.
Non, bien évidemment, on est revenu sur les faits du dernier pénalty tiré où on trouvait que, en tout cas, il n'avait pas bien tiré son dernier pénalty face au Portugal, même si elle était rentrée. On avait vu qu'il avait tenté une Panenka qu'il avait loupé et on s'est dit, voilà quoi. On sait que, voilà, il y a plusieurs experts, il y a plusieurs personnes qui auraient pu prendre le pénalty.
Mais je pense qu'on aurait dit la même chose. Il a fait une Panenka, on va dire ratée, mais bon. Les gens retiennent quoi? Ils retiennent le but, quoi.
Oui, bien sûr.
Le pénalty réalisé.
Oui, bien sûr. Après,
ils vont pas se cacher derrière. On a vu Zidane pareil contre l'Italie en 2006. Elle n'était pas forcément au top. Hein. Barre transversale, elle passe un petit chouïa derrière la ligne, ça passe quand même.
Oui, non, bien sûr. On lui enlève pas ça. Après, on sait bien.
Après, il a pris ses responsabilités.
Il faut savoir qu'il y a la pression aussi. Hein.
Bien sûr, c'est normal. Il reste. Vous êtes à la 85e, il y a pénalty. Vous marquez, vous allez aller sûrement en prolongation, vous donnez tout, vous pouvez gagner le match, ça vous laisse une deuxième chance. Malheureusement, quand vous le mettez pas, vous ratez psychologiquement, ça y est, vous êtes atteint.
Oui, bien sûr. Merci en tout cas, Younes, si t'as des derniers.
Au plaisir, gros big up à Daniel. Oui. On se voit bientôt, Daniel.
Ouais, il t'entend. Il fait un geste de la main, en tout cas, il te remercie. Et merci d'avoir été avec nous et d'avoir partagé ton
avec
analyse
plaisir.
Avec nous ce soir. On espère
avec
te
plaisir.
Revoir
merci,
très
les gars.
Bientôt.
Bonne soirée
à toi, Younes. Merci.
Moi, je vais revenir sur un truc. C'est une chose, c'est que quand il disait que la CAN et la Coupe du Monde, c'était pas la même chose, ben si, en fait, c'est une compétition sportive, c'est du football, c'est la même chose. Donc, il peut pas dire que la Coupe d'Afrique, c'est genre... C'est la CAN des quartiers, en fait. C'est une vraie compétition où il faut du niveau, il faut être fort physiquement, il faut être préparé tactiquement, techniquement. Les joueurs, ils doivent être en forme pour aller jusqu'au bout. Parce que quand on regarde bien l'état physique de certaines sélections, que ce soit l'Algérie, la Tunisie ou le Maroc aujourd'hui, ils se sont quand même fait bouger par le Congo, par la Namibie, par certaines sélections, Mauritanie aussi, qui sont un peu plus faibles sur le papier, on va dire ça comme ça, oui, mais qui étaient prêtes physiquement, techniquement, tactiquement à faire des exploits ou à gagner des matchs. Donc c'était une vraie compétition. Et
ah non, c'est, voilà, c'est une vraie compétition. Je pense que c'est du haut niveau. Là, on voit même dans les buts, que ce soit dans les buts, dans les actions, dans le jeu tout simplement, la CAN a vraiment évolué. On voit hein, cette édition, cette 34e édition même, je pense, qui est l'une des meilleures CAN, si ce n'est la meilleure organisée, et même en termes de jeu, les équipes, et en termes de qualité aussi. Et moi, j'avoue que j'avais peur. Hein. Au début, on avait vu un match entre le Mali et la Côte d'Ivoire, et le match s'est terminé en Aqua Planning ou Aqua, je sais pas quoi, mais c'était vraiment trempé. J'avais vraiment peur. Hein. Plus en plus de ça, une coupure à cause de la pluie, et on savait que c'était la période. Moi, j'avais vraiment peur. Aujourd'hui, on voit, franchement, à part le petit pépin face au Sénégal, tout se déroule très très bien. Voilà, moi je pense que voilà, les terrains, il n'y a personne qui fait je pense que vraiment utiliser des phases de oui, c'était le terrain ou peut-être la chaleur ou là, on ne contrôle, c'est des choses qu'on ne peut pas contrôler malheureusement, et c'est des choses avec lesquelles tout le monde joue et tout le monde s'adapte. Cheikh Kenza, donne-nous tes impressions toi sur le match du Maroc, que tu voyais le Maroc favori aussi sur ce match-là.
Oui, bien sûr, je vois le Maroc favori, même si l'Afrique du Sud avait posé pas mal de problèmes au Maroc par le passé, surtout un passé récent, dans les phases de qualif et tout ça. Mais moi, je me disais que Walid Regragui, il avait appris de ses erreurs en tant que fin tacticien qui connaît bien le football. Là, on ne parle pas vraiment de n'importe quel entraîneur. On parle d'un entraîneur vraiment qui a tenu tête à la France, qui a créé des problèmes au Portugal de Cristiano Ronaldo et qui a fait des mises à l'Espagne. Donc, disons, c'est quelqu'un qui connaît le football, qui savait vraiment comment, qui sait comment entamer les matchs, qui sait comment les gérer. Mais par moments aussi, on est un peu victime, tu sais, les tacticiens, par moments, ils ont des paris fous et tout. Ils aiment beaucoup essayer, c'est des gens qui aiment innover. Donc je pense que durant cette CAN, il n'a pas été vraiment l'entraîneur vraiment, il n'a pas été l'entraîneur vraiment qu'on pensait être. Parce que oui.
Moi, je pense pas que c'est par rapport à l'entraîneur, hein, mais vas-y, je te laisse approfondir. Mais moi, aujourd'hui, il a fait avec les moyens du bord, il a aligné ce qu'il a aligné d'habitude, il a joué dans le même système qu'il jouait d'habitude.
Mais pour moi, c'est ça cette erreur, parce qu'en fait. Tu as deux absences qui font partie de ton 11 titulaire et tu as voulu faire la même chose avec des joueurs différents. Alors que non, il faut s'adapter par rapport à son effectif. Il est mort avec ses idées. Et il faut dire une chose, c'est que c'est plus facile de jouer contre l'Espagne et le Portugal parce que tu vas laisser le ballon jouer en bloc bas, oui, faire une ligne de 5, une ligne de 4. Et quand tu joues contre l'Afrique du Sud, ben là, tu as le ballon et tu dois proposer autre chose. Et là, on voit le Maroc, en termes de jeu, ça a été très poussif à la CAN. C'était pas non plus un football flamboyant. C'était une équipe qui sont allés chercher leur victoire et leur match nul. Mais c'était pas non plus la régalade. Donc, même là, contre l'Afrique du Sud, ben, ils ont dominé. Mais ils auraient pu jouer une heure. Comment ils auraient pu marquer? Ils avaient personne pour marquer.
On pensait voilà,
il y a un truc vraiment,
moins, en tout cas, et
y a un truc vraiment que je voulais éclaircir. Quand tu me dis vraiment que oui, c'est plus facile de jouer contre l'Espagne et le Portugal et tout, oui, c'est normal. En tant que grand tacticien et tout, chaque match a ses abords. Chaque match, vraiment, on les prépare de façon différente et tout. Parce que je pense que Walid Regragui, c'est quelqu'un aussi qui étudie l'adversaire. Parce que déjà, pour mieux contourner ton adversaire, pour mieux le battre, il faut le connaître. Oui, en football, c'est des choses qui sont normales et tout. Chaque équipe étudie aussi son adversaire. Et cette équipe, il avait déjà joué. Donc du coup, quand tu joues une équipe et tu sais vraiment que cette équipe t'a causé des misères et tout, tu es préparé. Parce qu'un homme avait tiré en vaut deux. Donc du coup, tu sais vraiment prendre quelles précautions. Même s'il arrive qu'il y a des blessés et tout, cette CAN, il ne l'a pas préparé seulement avec Ziyech et Boufal. Quoi qu'il arrive, comme tu as dit, vraiment, là, je viens de dire, oui, le Maroc, dans cette CAN, on n'a pas vu le Maroc vraiment qui avait un jeu flamboyant et tout. Le Maroc a toujours été une équipe joueuse, même si par moment, à la Coupe du Monde, ils ont laissé le ballon à des équipes, mais ils ont été joueuses. Le football, ce n'est pas forcément d'avoir une possession qu'on dit t'es joueuse, non. Si tu sais déjà utiliser le compte, la transition, c'est aussi jouer au football. On a vu des équipes qui ont réussi à gagner avec des très belles transitions, mais qui donnaient le ballon à l'adversaire, mais qui avaient un bloc vraiment hyper solide. Et les transitions, ça se joue ben, quand on a vraiment les joueurs en jambes, quand on a les joueurs aussi qui sont préparés. Il peut arriver aussi qu'avant la CAN, l'effectif vraiment soit un peu fatigué vu le nombre de matchs. Mais je pense que ce n'est pas des excuses parce que Walid Regragui savait, cette CAN, il l'avait préparée. Lui-même, il l'avait déjà annoncé à la fin de la Coupe du Monde. Après, il est revenu sur ses propos quand il a vu vraiment ses limites. parce que c'est énorme. À un moment donné, oui, il a vu vraiment, pour lui, il pensait vraiment que la CAN, c'était une compétition qu'il allait jouer pour la gagner, oui. Quand il a vu vraiment que déjà les qualifs n'ont pas été vraiment ce qu'il souhaitait, donc il a dû vraiment revenir sur ses propos. Mais par contre, il y a aussi du positif. Aussi du positif, ils vont tirer les leçons, ils peuvent revenir grand chez eux en 2025, pourquoi pas, mais c'est le football.
C'est ça, bah, en 2025, hein, on rappelle, hein, la 35e édition de la CAN se déroulera au Maroc et en juin 2025. Oui, Arthur.
Non, non, moi c'était juste pour dire un bémol par rapport à ce qu'il a dit, c'était qu'en fait c'est plus simple de préparer une équipe sans ballon qu'avec ballon. Donc tu peux imposer plus facilement dans le jeu des Marocains, c'est-à-dire que c'est facile de mettre un football de transition, c'est-à-dire que tu mets un bloc médian ou bas et après tu fais deux passes et tu arrives en face en finition. Alors que quand tu as la possession, comme là contre l'Afrique du Sud, c'était quoi les circuits de passe, on va essayer de chercher sur les côtés et après on va centrer. C'est ce qui s'est passé à chaque fois. On trouve des mecs sur les côtés, ils accélèrent, elle Azouli. Et voilà, et c'est passé sur les côtés, ils ont centré au deuxième poteau et c'est comme ça qu'ils ont eu les pénalties et les occasions. Mais dans l'axe, il n'y a pas eu de création vraiment axe côté marocain.
Et je tiens à préciser que là, c'est le côté coach, hein, oui, qui parle de Arthur. Arthur, oui, qui est coach, depuis très longtemps déjà. Oui. Et là, c'est l'aspect, tu l'entends même, hein, tu le ressens dans ses paroles, comment il t'explique clairement. Il a une vraie vision là-dessus. Et Alfred, on va donner la parole à Alfred. Alfred, dis-nous, toi, qu'est-ce que tu as pensé du match entre l'Afrique du Sud et les Lions de l'Atlas ?
Sur l'Afrique du Sud, ce n'est pas une nation de football. L'Afrique du Sud, c'est une nation qui est reconnue au niveau du rugby. Après leur situation, ils sont revenus dans le football, ils reviennent petit à petit. Mais il faut reconnaître que l'Afrique du Sud, elle est très athlétique. D'accord ? Et puis, tout à l'heure, il ne faut pas utiliser soit l'alibi d'excuses en disant les stades ou quoi que ce soit. Le Maroc était venu avec je sais pas comment on dit.
Un objectif.
Voilà, et puis ils sont sortis quand même primés de troisième. De la Coupe du Monde. Donc, quelque part, ça, c'était important. Il y a eu peut-être quelques absences, mais à un certain moment donné, comme je dis, voilà, ils ont payé cash parce que les Sud-Africains n'ont rien lâché.
C'est ça.
Donc, pour moi, après, comme je dis, le football aujourd'hui, il n'y a pas l'idée de se crisper derrière quelque chose en disant non, lui, là, il est le meilleur que ça. Si tu as la possibilité de faire ce que tu peux faire, fais-le. Et tu le mates et c'est fini. À 1-0, avec, je crois, 10 minutes d'arrêt de jeu, tout le monde s'inquiétait, tout le monde pensait que le Maroc allait revenir. Mais là, quand il marque le deuxième but, voilà, c'est plié. Donc, pour moi, je pense que le Maroc doit préserver ses acquis. Ils ont terminé la Coupe du Monde avec une bonne position. C'est de conserver ça et de préparer le futur. Ça arrive de perdre. Il faut perdre avec... je sais pas, une petite... même si ça fait mal, mais voilà, je comprends bien, hein, mais bon, comme je dis, tout le temps, on peut pas être...
On peut pas à chaque fois trouver, trouver des excuses ou quoi qu'est-ce, en tout cas. D'accord, merci en tout cas.
Et encore, il faut souligner, il faut reconnaître, hein, c'est pas moi seul qui le dis, hein, mais oui, tout le monde sur la table ici, et l'avis de tout le monde, c'est que cette compétition, la Côte d'Ivoire a mis le paquet, c'est vrai qu'il y a certains stades, mais bon, on ne peut pas... Tout le monde reconnaît qu'elle se passe très bien. Ouais. Donc c'est ça qu'il faut dire. Donc ces petits trucs de dire comme ceci, comme cela, le climat, de toute façon, on se sert de la CAN pour faire de bons recrutements. Et c'est ces mêmes jeunes là qui intègrent les grands centres de formation, ça, oui, qui produisent quelque chose, elles viennent des CAN. Donc pour moi, voilà, je pense que la CAN nous permet d'avoir du spectacle dans le futur. Voilà.
Merci Alfred pour ton analyse. On va finir avec Salé. Dis-nous Salé, toi, ton impression sur ce match.
Alors, mon impression, le Maroc s'est fait piéger tout seul. Parce que le Maroc, qu'est-ce qui s'est passé? Au bout d'un moment, quand tu fais que de rater, des occasions assez importantes, on va dire que derrière, tu le payes cash. Et c'est ce qui s'est passé dans ce match-là. Ils ont été surpris. Et il faut pas oublier que l'Afrique du Sud, c'est pas une petite équipe, parce qu'ils l'ont démontré lors des éliminatoires. Ils étaient invaincus pendant 14 matchs d'affilée avant de rencontrer le Mali. Et même contre le Mali, ils ont posé problème au Mali durant la première période. Ils ont gagné leur deuxième match 2-0. Et sur le troisième match, bon, je compte pas le troisième match parce qu'on va dire que c'est plus de la gestion. Et aujourd'hui, bah, ils étaient en place. Ils ont joué le jeu jusqu'au bout. Il faut pas oublier que leur entraîneur, c'est l'ancien entraîneur du Cameroun qui connaît très bien le continent. Il a gagné la CAN avec le, si je dis pas de bêtises, avec le Cameroun en 2017. C'est quelqu'un qui connaît. Bon, c'est une équipe qui, on va dire, c'est des joueurs locaux, donc ils connaissent très bien. Mmh. Ils sont vraiment acclimatés déjà dans cette compétition. Et Maroc s'est fait piéger malheureusement et ils ont perdu ce match-là. Et là, je reviens sur ce que Younes avait dit par rapport au climat et tout ce qui en suit. Il n'y a pas que le Maroc qui a des joueurs européens. Je pense qu'il y a toutes les équipes qualifiées à présent. Je peux parler de la Guinée, je pense que plus de trois quarts de l'effectif, ils jouent tous en Europe. Le Congo, pareil. Le Mali, pareil. À part l'Afrique du Sud,
l'Algérie, Tunisie, etc.
Enfin, je veux dire, toutes les équipes, maintenant, il y a plus de joueurs
européens. Ce ne sont pas des raisons pour...
C'est pas des, et là, aujourd'hui, moi, pour personnellement, la CAN, c'est l'une des meilleures CAN, comme tu l'as dit, même si ce n'est pas la meilleure CAN. Les terrains, ils sont, franchement, c'est très beau. Y a, hein, tout est bien entretenu. Il n'y a pas de faux rebonds. Il n'y a pas de pelouse. Enfin, vraiment, tout est correct. L'arbitrage, il est correct. Tout est bien organisé. Donc, je vois, il n'y a vraiment pas d'excuses. Je pense que le Maroc était attendu. Malheureusement, ils n'ont pas répondu présent. Et aujourd'hui, bah, voilà, c'est un fait de jeu. Ils ont perdu. Il faut passer à autre chose. Et je pense que chez eux, à mon avis, par contre, là, ils vont vraiment être... je pense très intéressant. Après, je sais
après,
pas.
On rappelle quand même qu'au Maroc aussi, il fait chaud. Hein. On rappelle
c'est maintenant, aussi, c'est, chaud, c'est maintenant qu'ils doivent commencer à la préparer.
Oui, hein. C'est maintenant qu'ils doivent commencer à la préparer. Merci en tout cas. Je vous remercie à tous. Hein. On va rappeler ce vendredi 2 février. Il y aura pour les quarts de finale, il y aura le Nigeria face à l'Angola à 18h. Et on retrouvera à 21h le RDC. République démocratique du Congo face à la Guinée. Et le samedi 3 février, on retrouvera le Mali face à la Côte d'Ivoire, le pays hôte. Et on retrouvera aussi le Cap-Vert, les requins blancs, face au Bafana Bafana, l'Afrique du Sud, à 21h. Voilà pour ces affiches. On espère que vous serez encore avec nous. Et on vous souhaite une très bonne soirée. Merci à vous.